Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, une série qui est consacrée aux grands Québécois, aux grandes Québécoises qui ont marqué notre histoire dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ce soir, place à la poésie, mais d'abord un extrait. J'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabrant. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi, comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. Ce sont ces mots qui ouvrent L'homme rapaillé, certainement le recueil québécois de poésie le plus lu, le plus admiré, le plus traduit aussi des dernières décennies. Ce recueil est l'œuvre de Gaston Miron. Gaston Miron est né à Sainte-Agathe en 1928. Il est décédé à Montréal en 1996, un peu plus d'un an après le référendum de 1995. Il a eu une enfance relativement heureuse dans les pays d'en haut, donc. Et il, orphelin de père, il est déménagé à Montréal en 1947, où il s'est installé pour de bon après avoir étudié au Mont-Sacré-Cœur à Granby durant son adolescence. Quelques années après son arrivée à Montréal, en 1953, avec d'autres poètes, il va créer une grande maison d'édition importante pour la suite de l'histoire littéraire, l'Hexagone. Et ce n'est qu'en 1970, en avril 1970, qu'il va publier L'homme rapaillé, qui regroupe l'essentiel de son œuvre, une œuvre qu'il avait publiée auparavant au compte-gouttes depuis les années 50 dans diverses revues. Jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en 1987, en 1996, donc, les différentes versions de L'homme rapaillé seront toujours dites non définitives, puisque d'édition en édition, Gaston Miron retravaillait ses vers, comme un orfèvre, chaque strophe, chaque poème. Ce n'est donc qu'après sa mort que nous avons eu droit à une version définitive de L'homme rapaillé. Gaston Miron, donc, c'est un poète remarquable, un poète qu'on dit souvent le poète national des Québécois, même si, évidemment, il a été un militant d'indépendance, un défenseur de la langue française. Ce serait peut-être un peu court de réduire l'œuvre de Gaston Miron à sa portion politique et militante. Il suffit d'ouvrir L'homme rapaillé pour découvrir parmi les plus beaux poèmes d'amour de la langue française. Donc, un grand poète, mais aussi un animateur de la vie culturelle. Souvenez-vous qu'il a été l'animateur des Nuits de la poésie en 1970. C'était aussi un défenseur acharné des lettres d'ici, en France et dans toute la francophonie. Pour nous parler donc de cet homme, de cette personnalité attachante, hors norme, pour nous parler de cette œuvre aussi, nous avons invité un grand spécialiste. Il a été professeur d'université en littérature pendant l'essentiel de sa carrière. Il nous a offert une volumineuse, une monumentale biographie de Gaston Miron, près de 900 pages, hein, en 2011, publiée chez Boréal. C'est un essayiste réputé et c'est aussi un poète. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre Neveu. Alors, merci, Pierre Neveu, d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait toujours plaisir de parler de Gaston Miron.
Oui, en effet. On dit souvent, c'est comme l'expression consacrée, on va dire, de Gaston Miron, qu'il est notre poète national. Pourtant, il n'est pas le premier à avoir ce titre de poète national. Il s'inscrit dans une tradition.
Ben, il y avait eu avant lui, le cas le plus célèbre, c'est Louis Fréchette en 1887, lorsque Fréchette publie La Légende d'un peuple, qui est en fait un recueil où il reprend les grandes étapes de l'histoire canadienne-française, jusqu'aux patriotes, et ensuite, bon, ça se termine par une sorte d'apothéose, un cadeau à la France, bon, la France immortelle et tout. Fréchette avait eu ce titre-là. Mais ensuite, pas vraiment, c'est-à-dire, il faut voir, hein, pour être un poète national, par exemple, Nelly Gant est un grand poète, et c'est sûrement le plus marquant, là, à la fin du 19e, début 20e siècle, mais personne n'aurait pensé à dire que Nelly Gant, bon, Nelly Gant est trop exotique, trop en
trop
dehors,
dans l'intime, peut-être.
Trop dans l'intime. Bon, alors Miron. Alors, mais ce qui est vraiment, je dirais, stupéfiant pour Miron, c'est qu'il est décrété poète national. Et je peux dire, le premier qui a employé l'expression à ma connaissance, c'est l'écrivain André Major, qui était à l'époque journaliste dans les années 60 au Petit Journal. Et c'est en 63. Miron vient de publier, en fait, Miron, jusque-là, assez peu publié. Il a publié d'abord quelques poèmes, environ une quinzaine de poèmes en 1953, au moment de la fondation de l'Hexagone. Et ensuite, un peu dans les journaux, la presse, le Devoir, parce que les journaux, à l'époque, publiaient des poèmes, ce qui, malheureusement, aujourd'hui, en général, disparu. Et donc, en 62, Miron, dans un journal, d'ailleurs, le Nouveau Journal, qui est un journal assez éphémère, qui avait été créé au moment de la grève de la presse, et où se trouvaient des écrivains, Gérald Godin, Paul-Marie Lapointe et tout, avait publié La Marche à l'amour, sur une seule colonne. Ça fait toute la page, toute une page du journal, toute une colonne. Et l'année suivante, il publie La vie agonique, c'est une douzaine de poèmes, dans la revue Liberté. Alors, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas publié encore vraiment de livre en tant que tel. Et André Major, dans Le Petit Journal, écrit « Ces poèmes-là, ça nous exprime, ça nous fouille à l'intérieur, ça nous représente. » Et l'auteur de ces poèmes-là mérite d'être qualifié de poète national. Et ça reste ensuite, parce qu'en 1970, lorsqu'il va publier L'homme rapaillé, il y a un journaliste qui ramasse les impressions des invités, et il y a Jacques Godbout qui est là. Et Godbout, sans reprendre l'expression, dit en fait la même chose. Ces poèmes-là, ça nous représente, c'est vraiment nous. On a l'impression que c'est nous. Donc, ça suppose évidemment que ce poète-là incarne un certain être collectif, une certaine mémoire, une certaine manière d'être, une langue aussi. Mais
quand vous êtes sacré poète national de votre vivant, c'est assez lourd à porter quand
même. Bien, pour Miron, ça a été, je dirais, en effet, assez ambigu. Il a toujours été assez ambivalent par rapport à ce titre-là. D'un côté, évidemment, c'est un titre de gloire. Et on ne peut pas dire, il s'y est pas refusé non plus, dans la mesure où, chez Miron, le discours collectif, le discours à la fois politique, mais plus que politique, le discours d'une culture québécoise globale, légitime, ayant, ça a toujours été très présent dans son projet, dans sa poésie, mais aussi dans tous ses autres projets, ses projets d'éditeur aussi, faire exister la littérature du Québec et tout ça. En même temps, Miron rêvait, en fait, au moment où il serait plus obligé d'être un poète national ou un poète politique, où, enfin, on pourrait passer, disait-il, à la simple littérature sans être obligé de se sentir au service un peu d'une cause ou d'un destin collectif.
Parce qu'on a l'impression...
Et avec le temps,
c'est ça. Parce qu'on a l'impression, en vous lisant, justement, évidemment, vous rapportez ça bien dans vos travaux, vous dites, bon, il a été sacré poète national, mais... Quand on vous lit, on a l'impression que ça peut aussi masquer toute une portion de l'œuvre qui est justement la portion plus de l'intime, plus de l'amour, qui est très forte.
C'est sûr, l'amour en particulier, mais il faut voir, l'homme rapaillé, c'est beaucoup plus qu'un discours national ou nationaliste, à plus forte raison. C'est l'aventure d'un homme dans son destin et d'une collectivité à laquelle il se rattache. Il y a un « je » qui parle et qui est très... vous l'avez lu tout à l'heure, « Je ne suis arrivé à ce qui commence ». C'est un homme qui veut renaître vraiment, qui veut se retrouver lui-même. Et donc, déjà en soi, là, il y a une aventure qui est humaine. C'est l'histoire d'un homme. Et ça englobe aussi tellement de réalités qui ne sont pas réductibles à un point de vue purement national. C'est sûr, il y a tout un territoire qui est nommé. Vous avez aussi bien les vieilles montagnes râpées du Nord, donc ces vieilles montagnes des Laurentides, que Montréal avec le clocher de Saint-Jacques, la grande Sainte-Catherine Street, qu'il aimait appeler, qui était la grande Sainte-Catherine Street, en effet, des années 50, avec ses affiches unilingues anglaises, les talus du Mont-Royal. Vous avez une langue qui est tantôt... parfois très didactique, savante. À un moment donné, il dit « Je suis déphasé dans ma langue et mon appartenance, décentré dans ma coïncidence. » Bon, on a l'impression que c'est un discours très analytique, même un peu lourd sur le plan poétique. À l'inverse, vous avez le langage même des jurons québécois, hein, « Sainte-Bénite » de « Sainte-Bénite » de Batèche. Bon, et tout ce que... Alors, donc, il y a... Et vous avez aussi... des références à des... Je dirais, la force de Miron, et je pense que c'est ça aussi le secret de son universalité, c'est bien sûr à la fois d'avoir assumé le destin et toute la géographie québécoise, hein, avec sa flore, sa faune, l'orignal, le chevreuil, toutes ces réalités-là qui nous sont très familières, mais de les projeter aussi sur une scène que j'appellerais mythique, hein, qui est à la fois d'abord, et qu'on voit dans le poème, j'ai fait de plus loin que moi un voyage à Bas-Cadabran, me voici en moi, c'est l'homme qui revient chez soi. Et donc, ça rejoint là le grand mythe de l'Odyssée, d'Ulysse, qui, à travers toute sorte de péripéties et d'épreuves, va retrouver le foyer, le pays natal. Bon.
Le pays natal, justement.
Le pays natal, ouais. Bon. Retour au pays natal, bon, il faut voir aussi que Miron lit assez jeune ce livre capital de Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, qui est « Cahier d'un retour au pays natal », où là, c'est, on peut dire, le noir, et même c'est le nègre, il se nomme comme ça, le mauvais nègre, qui est humilié, qui est écrasé, et qui va tout à coup se redresser, se dire « j'ai ma dignité », et il retrouve son espace, il retrouve son lieu, alors que jusque-là, il est déclassé, il est considéré comme marginal. Alors, donc, c'est ce mythe-là, très, très important. J'ajouterais aussi toute cette trame, et qu'on a tendance parfois, je trouve, à négliger, c'est la trame religieuse, hein, la trame catholique chrétienne qui est l'héritage de Miron et qui recycle sur un plan, qui récupère, mais sur un plan politique. Vous avez, par exemple, des images, la passion du Christ, la flagellation, la rédemption, la résurrection. Vous avez un vers comme « Nous avons laissé la lumière du Verbe s'avilir ». Déchéance est ma parabole depuis des suites de pères. Bon, plein de termes qui, en fait, sont souvent évangéliques, mais qui sont projetés dans une perspective moderne, qui sont et je veux dire donc ça va chercher non seulement pour les Québécois bien sûr tout cet arrière-plan de notre histoire qui est notre histoire religieuse, mais ça touche plus généralement, je pense, toute la culture occidentale, bien sûr tout cet héritage chrétien. Alors évidemment aussi on pourrait ajouter également, je dirais, l'héritage marxiste, même si Miron à mon avis n'était pas vraiment un marxiste, ou en tout cas sûrement pas au sens d'un communiste comme tel, mais il y a tout de même cet héritage marxiste, cette utopie marxiste d'une égalité entre les hommes. En fait, il y a cette image, les hommes debout dans l'horizon de la justice, hein, dans Compagnon des Amériques. L'idée de la justice, très, très importante, et on en reparlera tout à l'heure, parce que ça vient aussi de sa famille. Ça, c'est des, c'est,
Ben justement, c'est important. Justement, on va revenir aux origines. Donc, Gaston Miron, dans les entrevues qu'il a données, accordées, dans les conférences qu'il a faites, dont certaines se retrouvent dans des documentaires inoubliables, on voit tout le charisme de cet homme, parle donc de son enfance à Sainte-Agathe, dans sa famille, parle de ses oncles, plus grande nature. Dans un récit autobiographique, parle aussi du pouvoir de l'anglais, hein, l'anglais, langue de pouvoir.
Oui.
Qu'est-ce qui le prédestinait? Est-ce que des choses le prédestinaient à l'écriture dans ce milieu-là?
Si on pense à l'écriture proprement dite, je dirais que c'était pas du tout évident que Miron allait devenir un écrivain. Il y a rien, en tout cas, dans sa jeunesse, avant qu'il parte, mais j'y arriverai ensuite, avant qu'il parte chez les frères à Granby, où là, il quitte sa famille. Mais auparavant, c'est la vie d'un jeune garçon ordinaire des années 30 qui est servant de messe à l'église, enfant de cœur, qui va à l'école et qui réussit très bien. Donc, il est aimé de ses professeurs, ça c'est sûr. Donc, valorisé sur le plan scolaire, qui par ailleurs a des goûts sportifs. Ses sœurs le trouvaient un peu rude, un peu... Bon, mais il était le... Alors, il a quatre sœurs, toutes plus jeunes que lui. Donc, c'est le seul garçon. C'est le garçon de la famille, l'aîné. Donc, il dispose d'un certain pouvoir, d'une certaine force. Mais autrement, sur ce plan-là, il n'y a rien de très particulier et en tout cas sûrement pas de goût évident pour la littérature, l'écriture.
Et là, il arrive en 1940, donc au Mont-Sacré-Cœur.
Oui.
Et là, c'est parce qu'il est orphelin, en fait. Hein? C'est un drame familial.
Là, il faudrait que je raconte un peu ça, peut-être, avant d'arriver au Mont-Sacré-Cœur, parce que c'est très important. Et là, je pense qu'il y a des choses qui le déterminent. Alors, d'abord, l'image de son père. Alors là, il en parle, notamment souvent, par la suite, son père qui avait... Il faut voir qu'à l'époque, c'est le développement extraordinaire des Laurentides qui fait en sorte que la crise économique, oui, elle frappe certaines personnes, sans doute, mais pas tant que ça. En tout cas, sûrement pas le père de Miron, qui est un entrepreneur en portes et fenêtres, qui est un menuisier de formation. Donc, les portes et fenêtres se font en bois, bien sûr, à l'époque. Mais donc, il y a beaucoup de contrats, parce que beaucoup de riches anglophones, notamment des Juifs, mais aussi des anglophones, s'installent autour du lac des Sables, dans la région de Sainte-Agathe. Donc, le père est assez prospère. C'est pas une famille pauvre, c'est une famille de classe moyenne, mais relativement à l'aise. Mais alors, il y a l'expérience de son père avec ses clients anglophones. Hein. Bon, le père se débrouille plus ou moins bien en anglais et il en est un peu frustré. Et il y a plus généralement cette présence. C'est pas toutes les petites villes du Québec qui l'ont vécu à ce point-là, mais Sainte-Agathe se trouve dans une situation particulière où il y a aussi des grands sanatoriums, hein, bon, où il y a beaucoup de patients, donc anglophones aussi, et l'été, le tourisme, qui se développe beaucoup. Et donc, cette population, surtout de langue anglaise, ça frappe beaucoup Miron, ça c'est sûr. Mais je dirais, c'est pas le seul élément. C'est moi, ça m'a. Le père et la mère ont été déterminants pour lui. Alors, le père, évidemment, parce qu'il l'a perdu. Le père meurt assez jeune. Il est dans la quarantaine. Il meurt en 1940, en mars 1940. Mais ce que le père lui a donné comme image, et ça me frappe parce que dans son journal intime, par exemple, lorsqu'il est rendu chez les frères à Grimby par la suite, il en parle. Il dit mon père a été le premier chez les Miron à sortir de cette espèce d'atavisme de la pauvreté et de l'inculture pour entreprendre une ascension sociale. Il a réussi, avec des moyens techniques, avec un savoir-faire, un esprit d'entreprise, à s'établir et tout. Et il dit à ce moment-là, et ça je pense que c'est important pour la suite, ça ne mène pas nécessairement Miron à l'écriture, mais ça le mène sûrement à une vocation culturelle. Il dit, moi je vais faire la même chose, précisément dans le domaine de la culture. Je vais faire le même esprit d'entrepreneur. Et je pense qu'on ne comprend pas tout à fait Miron si on ne tient pas compte de ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en même temps, a un passé douloureux à cause de ce deuil qui est terrible pour la famille, parce que la mère, qui a fait une cinquième année, qui n'a pas beaucoup d'instruction, qui n'a jamais exercé un métier, se retrouve veuve avec cinq enfants, tous assez jeunes. Miron est le plus vieux et il a 12 ans en 1940. Alors, c'est assez terrible. Et je dirais aussi, c'est que l'image de cette mère laissée à elle-même, obligée alors pour survivre, de faire des ménages, elle fait des lavages pour les gens de la région, elle va chercher le linge, elle l'amène chez elle, le lave, elle va le reporter avec l'aide de ses filles aussi. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps. Ça va, même par la suite, elle va se remarier, mais la mère de Miron en garde toujours une image douloureuse. Il dit. Alors, je dirais, pour moi, ces deux aspects-là, le père qui est entrepreneur, qui a aussi un esprit de perfectionniste sur le plan de l'artisanat, il fait bien ses fenêtres, il polit le bois, il fait aussi des meubles parfois qui lui sont commandés. Et Miron se souvient, même dans un film qui est de 1994, donc à la toute fin de sa vie, il en parle de ça, de son père, varlopant le bois et s'assurant que
un artisan,
la planchette est vraiment droite et tout. Et donc, l'esprit d'entrepreneur de son père. Mais à l'inverse, je dirais l'injustice qui frappe sa mère. Je parlais tout à l'heure de la conscience marxiste, prenons-la dans un sens plus large, en tout cas une conscience sociale qui est celle que certains êtres, dans n'importe quelle société, mais c'est vrai dans la société québécoise, n'ont pas eu de chance, se trouvent dans des conditions difficiles et doivent lutter toute leur vie, en fait, pour une simple survivance. Et c'est un peu ça que Miron a vu de sa mère tout au long des années, et ça revient par la suite.
Alors donc, il arrive au Mont-Sacré-Cœur. Est-ce qu'il a, dans ces circonstances-là, est-ce qu'il a vraiment la vocation?
Bonne
est-ce
question.
Qu'il a vraiment la vocation? Est-ce qu'il envisage sérieusement de devenir frère? Vous dites qu'un de ses modèles tôt, c'est quelqu'un comme Marie-Victorin, dont on a parlé ici, parce qu'il combine littérature et engagement religieux.
On ne peut pas dire que... C'est-à-dire qu'il y a une évolution, bien sûr. Il faut voir, hein, il arrive là-bas, il a 13 ans. Et c'était... Le recrutement se faisait, hein, souvent avec une certaine pression. D'ailleurs, Miron raconte que c'est qu'à Sainte-Agathe, il avait eu des professeurs qui étaient des frères du Sacré-Cœur. Et l'un d'eux lui avait dit, mais si... Alors, imaginez un petit garçon de 12 ans qui se fait dire, si le Sacré-Cœur t'apparaissait et te demandait, veux-tu entrer dans la vie religieuse, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, disons que la pression est quand même un peu forte. Il dit, ben, je me suis dit, ben, bon, finalement, je pense que je répondrais oui. Bon. Et là, ça revient de façon un peu insistante. D'ailleurs, les frères, à l'époque, étaient très soucieux de la question du recrutement, parce que dès que ça baissait un peu, on s'inquiétait, parce qu'on avait besoin de beaucoup de profs dans les écoles. Hein, bon. Et alors, donc, Alors, on pourrait penser que c'est, oui, c'est un peu quelque chose d'imposé, mais pas à ce point-là. Quand on lit son journal, et il tient un journal très régulier entre 1943 et 1950, donc il est entré au collège en 1941, donc il a, en 1943, il a 15 ans, et on voit qu'il y a un véritable désir, même de sainteté, d'intégrité, un désir de... Ses premiers poèmes, d'ailleurs, souvent, ont une teneur religieuse. Hein. Il y a un poème à la Sainte Vierge, il y a des poèmes sur des cérémonies.
Il y a l'influence des poètes régionalistes qu'on
aussi,
sent dans les extraits
bien
que vous
citez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le collège... Pour lui, d'abord, c'est un exil. C'est non seulement un deuil parce qu'il a perdu son père un an plus tôt, mais c'est un exil. Il est à 150 kilomètres de Sainte-Agathe, là, à ce moment-là. Et à l'époque, c'est une longue distance.
Oui, sans les autoroutes.
Sans les autoroutes,
ouais.
Là, bon. En même temps, rapidement, il y a des livres dans ce collège-là. Il y a un enseignement aussi de la poésie, enfin de la littérature, de la poésie. Il découvre, oui, les vieux poètes régionalistes. Disons, il a beaucoup lu des poètes comme Néré Beauchemin, Louis-Joseph Doucet, qui n'est pas un poète très connu, mais je sais que Miron, à un moment donné, j'ai travaillé avec lui pour l'anthologie de la poésie québécoise, et il nous disait, bon, il faut lire Louis-Joseph Doucet. Il aimait ces poètes qui décrivaient la vie, les paysages québécois, les bords du fleuve, la vie rurale, donc un peu le terroir, ce qu'on peut appeler...
Alfred Desrochers?
Oui. Alfred Desrochers, ça, c'est un statut particulier.
Ouais.
Parce qu'Alfred Desrochers, d'abord, sur le plan de l'histoire de la poésie, c'est un peu l'aboutissement de la poésie, qu'on pourrait dire régionaliste ou du terroir, mais à un niveau qui n'a rien de commun avec tous ceux qui l'ont précédé. Les autres sont un peu souvent, un peu mièvres, un peu... Bon, au mieux, ils sont pittoresques et Desrochers arrive avec une puissance. Hein? Évidemment, on connaît son poème, l'hymne au vent du Nord. Hein? Je suis un fils déchu de race surhumaine. Il y a une énergie, il y a une façon de décrire la vie quotidienne. Bon, c'est aussi bien on abat un porc sur une ferme qu'on fait les labours avec une force. Et ça, Miron est très impressionné par Desrochers. Et plus tard, il va le rencontrer, d'ailleurs, au début des années 50, et ça va beaucoup l'impressionner.
Donc, il fait ces études-là. On doit poursuivre parce qu'on a une vie à couvrir, hein?
Oui.
Une vie fascinante.
Il
arrive à Montréal et là, donc, il décide de ne pas être prêtre. Enfin, de ne pas... Il arrive à Montréal en 1947. On a l'impression qu'il se cherche un peu au début. Quelle voie
c'est
va-t-il
très
explorer?
Difficile. C'est oui. Probablement la période la plus difficile de sa vie.
Oui.
Oui, il se cherche. Il s'est rendu compte, en tout cas, qu'il n'avait pas la vocation. Donc, et il cherche aussi l'amour et il ne le trouve pas. Il est assez maladroit. Il connaît rien des femmes. Il connaît très peu de choses, en tout cas.
Mais il n'avait pas eu une très bonne formation.
Il n'avait pas eu une très bonne formation.
Mon Sacré-Cœur.
Mon Sacré-Cœur, disons. Hein?
C'est pas là qu'on apprend.
C'était pas le meilleur endroit.
Ouais.
Alors, mais c'est vrai, c'est très difficile. Il se sent physiquement un peu atteint. À un moment donné, il se sent malade. Il va à l'hôpital Notre-Dame, il sort. Il est un peu hypochondriaque, d'ailleurs, mais ça, il l'a toujours été. Hein? Miron, il avait un petit bobo et c'était toujours quelque chose de très grave, là, mais bon, c'est pas quelque chose de si rare. Mais il se cherche. Mais ce qui est vraiment déterminer la suite, c'est qu'il décide quand même de s'inscrire à des cours en sciences sociales à l'Université de Montréal. Et ça, c'était très important parce que là, il y a eu quand même une ouverture d'abord à des problèmes sociaux, mais vraiment, donc c'était étoffé, c'était des cours. Alors, c'est l'époque où c'est Édouard Montpetit qui est doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal. Mais il a des professeurs comme Jean Bruchesi, par exemple, qui était un homme quand même qui occupait déjà un rôle politique puisqu'il était secrétaire de la province. Et Bruchesi allait être important pour lui parce que, comme secrétaire de la province, il allait acheter des recueils par la suite de publiés par les éditions de l'Hexagone. Mais donc, il y a une formation sociale qui est quand même importante. Il y a même un professeur qui leur fait lire, ça va vous étonner, parce qu'on est en 1947-48, le manifeste du Parti communiste, quand même. Anatole Désy, qui n'est pas un des professeurs les plus connus aux sciences sociales, leur fait lire ça. Donc, il y a quand même là une ouverture aux problèmes de justice, d'équité. L'autre aspect, c'est les groupes de jeunesse où ils s'engagent. Alors ça, c'est très important. Le clan Saint-Jacques et l'Ordre de Bontemps, des groupes de loisirs, des groupes scouts, où d'abord, On découvre la nature, on va dans la nature, on va camper à Saint-Donat, on tient des journées dans la nature. Il y a aussi toute la dimension du folklore. Miron va se passionner pour le folklore, il va apprendre énormément de chansons traditionnelles. Il y en a plusieurs qu'il n'a jamais oubliées.
On imagine les jeunes qui avaient comme guide scout Gaston Miron, ça devait être inoubliable.
Avait du succès. Et souvent, il était avec un autre personnage qui ne manquait pas de couleur non plus, le père Ambroise Lafortune.
Ah, mon Dieu! Quel duo!
Sûrement, va vous rappeler des souvenirs, mais le père Ambroise... Alors, ça faisait un méchant duo.
Oui, un méchant duo. Et là, en 1953, c'est un moment important pour Gaston Miron, mais aussi pour l'Institution littéraire au Québec, la création de l'Hexagone. Pourquoi c'est important pour Gaston Miron et pourquoi c'est important pour l'Institution littéraire au Québec, au Canada français à l'époque?
Bien, c'est que il faut dire que la situation au début des années 50 sur le plan littéraire, et surtout pour les jeunes écrivains, est loin d'être rose. Hein? Bon, il faut remonter évidemment plus loin en arrière, mais depuis le 19e siècle, bon, d'abord, il faut dire que la littérature québécoise a cherché, qu'on appelait à l'époque canadienne ou bien ensuite canadienne-française, le terme québécois est beaucoup plus tardif, après 1965. Mais c'est une littérature qui se développe sans doute, mais sur laquelle on entretient toujours des doutes, des réserves. Ensuite arrive la crise économique dans les années 30. Des éditeurs importants, je pense par exemple les éditions Albert Lévesque, qui publiaient des auteurs importants, font faillite, ou en tout cas doivent cesser leurs activités vers 1937. Alors arrive la guerre, ça a été une sorte de moment faste pour l'édition québécoise, parce que vous avez des éditeurs, surtout deux, les éditions de l'Arbre et les éditions Bernard Valiquette, qui profite en fait de la léthargie de l'édition française, parce que la plupart des éditeurs français ne peuvent plus fonctionner sous l'occupation, ou en tout cas fonctionnent à très bas régime. Et donc, les auteurs français publient au Québec. Alors, on publie à la fois des classiques français, mais aussi des auteurs contemporains, Mauriac, Jouandeau, plusieurs autres. Mais après la guerre, tout ça retombe. Hein? Bon, et ça donne lieu d'ailleurs à un conflit. Ça, Miron a été très marqué par ce conflit-là parce qu'à ce moment-là, des auteurs de gauche comme Aragon et plusieurs autres critiquent ces éditeurs québécois qui ont publié aussi bien des auteurs de droite que de gauche. Hein? Mm-hmm. Et par exemple, Jouandeau, qui était plutôt vu comme, bien sûr, comme un auteur de droite. Alors, on leur reproche. Et ça devient une occasion pour, entre autres, Robert Charbonneau, qui était le directeur des éditions de l'Arbre, de revendiquer l'autonomie de la littérature québécoise. Et Miron, ça, c'est le premier débat dont il est vraiment témoin. Il a 19 ans à l'époque, en 1947, et ça l'impressionne, ce besoin d'affirmer la pleine autonomie de notre littérature. Mais sur le plan de l'édition, c'est assez lamentable pour les jeunes auteurs à cette époque-là. Même Anne Hébert, par exemple, qui publie Le tombeau des rois en 1953, un recueil absolument marquant dans la littérature québécoise, doit publier à compte d'auteur. Elle doit payer une bonne partie de son édition et acheter elle-même comme 200 exemplaires de son livre. Alors, ces jeunes-là, donc, Miron et d'autres, il y a eu d'autres écrivains qui ont tenté aussi de fonder des maisons d'édition et qui ont réussi, je pense notamment à Roland Giguère, qui fonde les éditions Herta au lendemain de la guerre et qui publie lui aussi des poètes. Mais tout ça, quand même, reste fragile, artisanal. Donc, fonder l'Hexagone, c'est vraiment le désir de fonder une maison d'édition qui va fonctionner selon des... D'abord, qui ne va pas fonctionner à compte d'auteur, où les auteurs vont être bien servis avec une édition de qualité. Et c'est ça qui va se passer. Et quand on voit le succès instantané des éditions de l'Hexagone, on constate qu'il y avait un vide, là, y compris, là, pas seulement du côté de la poésie, mais rapidement, les éditions de l'Hexagone reçoivent des manuscrits du jeune Hubert Aquin, de Jacques Languirand, de romanciers, donc...
De talent.
Qui vont devenir connus par la suite, et qui se cherchent des éditeurs qui n'en trouvent pas, parce que les grandes maisons, Beauchemin, Fidès et tout ça, sont pas vues comme des lieux très accueillants pour les jeunes écrivains.
Et pour Gaston Miron, donc, vous dites que sa période de production la plus faste, c'est entre, en gros, 1952 et 1958. Vous dites ça, c'est là que l'essentiel, enfin, une grande partie de son œuvre poétique, il l'a écrite. Et pourquoi ce moment-là en particulier dans sa vie? Qu'est-ce qui Il y a peut-être une femme derrière ça, ou il y a peut-être d'autres choses, mais qui, parce que...
Oui, il y a sûrement une femme, c'est-à-dire qu'en 1952-53, grâce d'ailleurs à ses activités de loisirs, il est toujours dans l'Orbe de Bontemps, là, c'est juste avant la fondation des éditions de l'Hexagone, et je signale d'ailleurs que tous les membres de fondateurs de l'Hexagone étaient tous participants à l'Orbe de Bontemps et à ses groupes de jeunesse. Mais il rencontre, à un moment donné, par hasard, une jeune femme qui s'appelle Isabelle. Il devient follement amoureux, mais ça va très mal se terminer, comme un très grand nombre d'aventures amoureuses de Miron durant sa vie, jusque très tardivement. Et c'est sûr que ça, c'est un moment clé. Bon, il écrivait, depuis la fin des années 40, là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en gestation, hein, mais c'était des poèmes de solitude, il y a un poème qui s'appelle « Désemparé », hein, et c'est vraiment, ça dit bien son état d'âme au tournant de 1950. Ouais. Miron, d'ailleurs, est quelqu'un, on l'a connu par la suite comme quelqu'un de très sociable, quelqu'un, mais à l'époque, il souffre d'une profonde solitude et d'un malaise en société, hein. Bon, il est pas très à l'aise et toujours pas plus avec les femmes, d'ailleurs. Mm. Donc, Isabelle, c'est un moment clé. C'est-à-dire qu'on dirait, et ça apparaît parce que moi, je suis tombé sur des lettres qu'il a pu écrire à Isabelle, mais qu'il avait récupérées. Et on voit que là, il se passe quelque chose dans sa poésie, dans la poésie amoureuse comme telle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on dirait que c'est à travers son mal d'amour qui découvre en même temps le mal du pays. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire, dans le mal d'amour, il y a la solitude, le froid, le manque de lumière. Et on arrive ensuite avec des poèmes du pays qui sont « Il est ce pays seul avec lui-même et neige, un pays que jamais ne rejoint le soleil natal ». Donc, seul avec lui-même, c'est aussi Miron seul avec lui-même dans sa peine d'amour. Mais tout à coup, ça prend une autre dimension, qui est une dimension plus sociale et politique, qui est le début de la conscience du pays. Ça, c'est une raison pour laquelle c'était sa grande période, c'est cette peine d'amour, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Je pense que Miron est un homme du passage. Hein, je dirais qu'il n'y a aucun poète qui a le mieux marqué cette transition entre la période antérieure à la Révolution tranquille, c'est-à-dire la période, si on veut résumer, mais c'est un cliché un peu, puis il faudrait nuancer, mais quand même, du Canadien français humilié, humilié dans sa langue, inférieur sur le plan économique, se sentant donc aliéné de sa légitimité, de son identité. Donc le passage depuis le Canadien français le plus, si on veut, démuni, et vers le Québécois de la Révolution tranquille.
Québécois affranchi.
Se dressant debout et disant « Je suis quelqu'un ». Et il y a plusieurs poèmes de Miron, d'ailleurs. Il y a un poème qui, pour moi, est fondamental. « La route que nous suivons », il dit « Nous étions au nord du monde, à l'abri des carnages de peuples. » Et nous sentions plutôt bien là-dedans. Et il dit « Soudain, je fus debout ». Et cette image de l'homme qui se dresse pour affirmer qu'il peut être, qu'il peut exister, c'est évidemment fondamental. Donc, ces années-là sont très importantes parce que Miron souffre parce qu'à l'époque, bon, il n'y a pas de parti politique qui peut vraiment assumer. Bon, le RIN va être fondé après, et bien sûr, le Parti québécois beaucoup plus tard. Donc, Miron, à l'époque, il s'engage un peu politiquement au nouveau Parti démocratique qui s'appelle à l'époque le CCF, qui va devenir le Parti social-démocrate. Mais il n'y a pas de débouché politique. Donc, on est encore sous le duplessisme, mais en même temps, il y a cette espérance que quelque chose va pouvoir changer. Et donc, cette transition-là, c'est ça qui l'inspire.
Et on a l'impression que les années 60, justement, on a l'impression chez lui, en vous lisant puis en vous écoutant, vous dites un homme du passage qui se dresse, il y a une conversion chez lui à ses thèses sur l'aliénation du colonisé, comme pour lui. Alors que ce que vous montrez, c'est qu'il a des vues assez conservatrices, plus jeunes.
Oui.
Vous citez même un extrait de 1948.
Écoutez, je trouve ça assez cocasse, oui. Élection,
alors, en 1948, il se passe au Québec un événement, il y a la réélection de l'Union nationale.
Voilà.
Et donc, il s'en réjouit.
Exactement. Et Miron écrit ceci. Alors, écoutez bien, c'est assez intéressant. Il est très coincé. Le soir même de l'élection de Duplessis, l'idée autonomiste triomphe. À la bonne heure, victoire démocratique. Duplessis parle à la foule. La foule participe au triomphe. Elle est enthousiaste. L'enthousiasme national est le climat des grandes heures, heures de la race, une culture à sauver. Nous avons prouvé qu'aux grandes heures, nous savions nous unir, choix, liberté du suffrage. C'est autrement digne et noble quand les pays totalitaires où la dictature s'impose et où les individus saluent le chef avec terreur. C'est assez intéressant parce qu'il voit Duplessis comme une manifestation de démocratique.
Du peuple.
Et du peuple aussi. Il y a une dimension populiste aussi
ouais,
là-dedans.
Ouais.
Mais
donc, entre 1948 et l'homme qui admire Jacques Berck et Frantz Mémy et tous ces penseurs de la décolonisation, enfin, le chemin n'est pas clair, là. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans sa conversion.
Il se passe quelque chose. Bon, alors, il lit, à un moment donné, Albert Mémy, Portrait du colonisé. Alors, ça, c'est en 1957. Ça, c'est un livre très important, parce que là, c'est, il le raconte d'ailleurs dans un texte qui est dans L'Homme rapaillé, si vous voulez le lire, c'est un long chemin, où il dit à un moment donné que quelqu'un lui raconte que Mémy avait lu un dossier pour la revue Esprit, un dossier écrit par des auteurs canadiens-français de l'époque, des essayistes et tout. Mémy avait eu ce commentaire. C'est drôle, dans ces textes-là, j'ai l'impression que je vois une conscience de colonisé. Et Miron raconte qu'au début, il s'est dit, non, ça ne, on n'est pas décolonisé, on n'est pas dans la situation de l'Algérie ou des pays... Bon, alors il a refusé ça. Et il raconte aussi qu'à l'époque, pour lui, le malaise, il ressentait quand même un malaise, mais pour lui, c'était dû d'abord... au duplessisme, parce que là, il avait changé d'idée sur Duplessis. À partir de 1955, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'est... Bon. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il milite dans un parti social-démocrate et tout. Là, de plus en plus, il se rend compte. Et lorsqu'il entend, en 1958, alors ça, c'est un moment important, Duplessis déclare que la gratuité de l'enseignement, c'est du socialisme, il faut absolument... c'est absolument inacceptable. Miron fait même signer une pétition pour dénoncer les propos de Duplessis. Donc, on voit qu'en 10 ans, là, il a complètement changé d'optique. Mais donc, c'est ça. Il est... donc, il va lire, il fait des lectures, il lit le cahier d'un retour au pays natal, donc, de plus en plus, il lit des auteurs de Gaulle. Et la conscience, la prise de conscience de la condition coloniale, même si ce n'est pas l'équivalent de ce qu'il y a en Algérie ou ailleurs, ça le marque à ce moment-là. Et évidemment, ça va être renforcé par son séjour en France, qui a lieu entre 1959 et 1961, donc en pleine guerre d'Algérie, où là, il côtoie les gens de la revue Esprit, qui sont tous anticoloniaux, qui le fondateur Emmanuel Mounier avait déjà dans les années 40, donc de façon assez très tôt dans ce déroulement-là, avait... dénoncer le colonialisme. Et donc, là, à partir de là, c'est sûr que la pensée de Miron évolue très rapidement. Et quand il revient en 61, bien là, on est en pleine révolution tranquille. Mais cette évolution-là, donc, s'est faite quand même relativement rapidement et elle est un peu étonnante quand on voit d'où il est parti, d'un discours très conservateur, c'est sûr.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va publier, je disais, au compte-gouttes, des poèmes dans les années 50, dans les années 60. Il est reconnu même comme un poète national. Il a droit à une première étude sur son œuvre poétique en 1966 par Jacques Brault,
célèbre conférence,
Miron, le Magnifique. Mais il n'y a toujours pas de livre. Son livre en avril 1970.
Oui.
On a vraiment l'impression, à vous lire, quand on passe à travers votre biographie, qui fait 900 pages, alors que Gaston Miron se fait 250 pages. C'est intéressant. Hein? Il a droit à une biographie 4 fois ou 5 fois plus... Bon. Alors, donc, on a l'impression qu'il était tétanisé. Hein? Il y avait une peur chez lui de publier. Il y avait une espèce de retenue. Comment l'expliquer?
Alors, je pense qu'il y a, bon, il y a d'abord, je pense, un rapport très difficile à l'écrit chez Miron qui tient à une sorte d'insécurité dans sa langue. Bon, c'est un phénomène de génération parce que plusieurs écrivains de sa génération ont dit que pour écrire, ils avaient dû réapprendre le français, comme si ils étaient dépossédés de leur langue natale. Hein? Bon, pour toutes sortes de raisons, à cause du contexte linguistique qui est celui des années 50, sûrement, qui est important. Miron est très conscient du bilinguisme qui, pour lui, et il le voit autour de lui. Là. Et donc, ça crée une sorte de malaise. C'est pas la seule raison, mais sûrement, il y a... Et on dirait que l'écrit, évidemment, écrire, c'est s'engager beaucoup. On peut pas... Miron, sur le plan de la parole, n'a aucun problème. Hein? Mais écrire, c'est autre chose. C'est inscrire quelque chose, et c'est risqué d'exposer aussi ses maladresses. Bon, ça, c'est sûr. Mais il y a une autre raison qui est d'un autre ordre, qui est d'ordre plus littéraire ou poétique, c'est que Miron avait une très haute idée de la poésie. Il a même dit à une certaine époque qu'il voulait, c'est un peu paradoxal peut-être pour un poète qui en même temps était très lié à un contexte politique, il dit « je voudrais être un poète classique ». Bon. Il avait une idée très haute de la poésie, il avait lu beaucoup la poésie française, il tenait en très haute estime la poésie française, il était intimidé par cette poésie-là, pouvait penser qu'il n'était pas à la hauteur. D'ailleurs, au début des années 60, un poète français qui est en même temps un anthologiste, Alain Bosquet, fait une anthologie de la poésie canadienne-française à l'époque, il l'appelle passant encore québécoise, et Miron refuse d'y participer. Il se trouve toutes sortes de prétextes, mais moi, je l'interprète d'abord et avant tout parce qu'il ne veut pas... Pour lui, ses poèmes sont encore imparfaits, ses poèmes ne sont pas aboutis. Et c'est vrai, quand on regarde ses manuscrits, c'est un travail de très longue haleine. Il y a des vers de 1950 qu'on retrouve dans L'homme drapaillé, il y en a beaucoup qu'on retrouve en 1970 dans L'homme drapaillé, qui ont traîné dans le décor pendant 20 ans, qu'il a repris à de multiples reprises, qu'il a corrigé, qu'il a modifié. Alors, c'est biffé, ça se cherche tout au long de ces années. Et il est toujours insatisfait. Alors, quand on parle de L'homme rapaillé qui est resté jusqu'à la fin dans une version non définitive...
Moi, j'ai la dernière version, l'édition de 1993 que vous avez préfacée, que j'avais achetée quand j'étais à l'université, et je me souviens de l'avoir ouvert, d'avoir vu édition non définitive. C'est drôle.
Tout à fait, et il tenait beaucoup à cette inscription. Bon. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est 1993. En 1994, les éditions de l'Hexagone ont fait une sorte de... C'est une édition qui est la plus faible circulation, parce que c'est une édition plutôt de luxe, dans laquelle Miron commente parfois, par exemple, les circonstances d'écriture de tel ou tel poème et tout ça. Mais de temps à autre aussi, en face de certains vers de ses poèmes, c'est écrit « vers en souffrance ». Et un vers en souffrance, donc, c'est un vers qu'il juge donc comme un conte en souffrance, pas encore payé. C'est un vers qui, pour lui, est inachevé.
Alors, donc, arrivent les années 70, et là, moi, il y a deux thèmes rapidement qu'il faudrait aborder, je pense que c'est important. D'abord, la question du joual. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a un débat qui fait rage sur l'existence ou non d'une langue québécoise que certains qualifient de joual. Il y a des romans qui paraissent en joual, notamment Claude Jasmin, Pleure pas Germaine.
Claude Jasmin, Pleure pas Germaine.
En 1972, je crois, des éditions Parti-Pris. Il y a des défenseurs vigoureux de ça qui veulent s'éloigner de la France. Comment se positionne Miron par rapport à débat-là?
C'est très intéressant parce que, d'abord, on peut dire la question du joual, évidemment. Bon, on commence à en parler, le frère Untel en parle déjà en 1960. Bon, mais à la revue Parti-Pris, Miron est donc entre 1963 et 66 surtout, c'est là que Miron est le plus proche de la revue Parti-Pris, qui est fondée par des jeunes auteurs, Jean-Marc Piotte, Pierre Maheu et tout. La question du joual est déjà soulevée là, d'une façon assez importante. En général, le joual est vu comme le symptôme d'une sorte de maladie collective. Hein? C'est vraiment...
Le malaise.
Gérald Godin dit, par exemple, le bon français, c'est notre avenir, mais le présent, c'est le joual. C'est-à-dire qu'il faut, dans d'autres termes, si on progresse suffisamment, si on s'affirme culturellement et politiquement, un jour, on parlera bien français, mais pour l'instant, le joual reflète notre condition. Bon. Alors, il y a ça. Sauf qu'avec le temps, la question du joual s'élargit un peu à la question de la langue québécoise au tournant des années 70. Et il y a un numéro important de la revue Maintenant, en 1974, la revue à l'époque est dirigée par Hélène Pelletier-Baillargeon, qui est une grande amie de Miron, où la question va être posée. C'est-à-dire que certains auteurs et certains linguistes même, comme Henri Bélanger, par exemple, revendiquent la langue québécoise, alors que ça inclut le joual, mais c'est plus large, comme langue vraiment autonome, distincte, qui, à la limite, pourrait finir par devenir très différente du français tel qu'on le parle ailleurs dans le monde. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Dans les années 30, il y avait des auteurs qui avaient revendiqué ça aussi, au risque de... On va accentuer la distinction, la différence québécoise jusqu'au point où ça pourrait être une langue différente. Miron refuse absolument cette perspective-là. Et alors, il intervient notamment dans un numéro, et le titre est assez, le numéro de Maintenant, 1974, le titre c'est « Cheval, ou bien donc joual, ou bedon, horse ». C'est ça le titre. Et Miron dit La question, c'est pas de choisir entre cheval et joual, c'est de choisir entre cheval et horse. Le danger, c'est qu'un jour, on dise horse.
Ouais. Bon. Alors, quand tu dis pas horse, tu parles français.
Bon, voilà. Alors, Miron, a été très influent sur le plan linguistique. Mm. C'est assez étonnant parce qu'il n'avait pas aucune formation linguistique, mais il avait lu des linguistes.
Il avait une réflexion.
Et il était très marqué par une perspective linguistique qui a commencé à s'affirmer dans les années 50 au Québec et qu'on trouve chez André Dallemagne, chez Jean-Marc Léger, chez plusieurs autres, une perspective sociolinguistique qui dit... On ne doit pas dire simplement aux gens de bien parler français. Ça, c'est pas rentable, c'est pas efficace. Il faut changer les conditions d'exercice de la langue. Mmh. Si on parle mal, c'est que aussi le français n'est pas dans une position d'hégémonie, de légitimité dans notre espace. Et donc, on ne peut pas détacher la langue des conditions sociales de son exercice. Mmh. Miron a toujours développé cette idée-là, ça c'est sûr, et en même temps a toujours été très nuancé sur le plan du Québécois versus français. Le français, bon, français international, c'est une notion un peu abstraite, mais disons, le français qui est une certaine norme, en tout cas qui est assez répandue dans la francophonie, il a toujours vu la langue du Québec comme du français, mais une variante du français, avec des particularismes, des régionalismes. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, si vous allez dans le dictionnaire Robert aujourd'hui, vous avez des mots comme fardoche, wananiche et tout, ils sont marqués comme en usage au Québec, mais en même temps, ils ont été intégrés tout de même au grand dictionnaire, un des dictionnaires les plus importants. Mmh. Alors, Miron avait une vision très nuancée de ce point de vue-là. Mmh. Et je dirais que c'est ça, finalement, qui l'a rendu aussi influent. C'est qu'il parlait en tenant compte des conditions sociopolitiques de l'exercice de la langue, mais aussi de façon nuancée par rapport à cette question du joual et du français québécois.
Alors, justement, il y a le rapport à la France. En 1981, Gaston Miron publie « L'homme rapaillé », mais en France, aux éditions Maspero. Alors, vous dites dans votre biographie, ce n'était pas l'éditeur nécessairement le plus réputé pour la poésie, mais il souhaite cette maison d'édition-là. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, c'est quoi le rapport justement de Miron à la France? Hein? On a longtemps accusé les intellectuels canadiens-français d'être comme un peu fascinés, écrasés par la France, de vouloir singer les écrivains français, d'être dans un rapport d'infériorité. Hein?
Ouais.
On n'a pas l'impression que c'est le cas de Miron. Alors,
non.
Alors, pourquoi Maspero et comment voit-il la France?
Bon. La question de la France, je dirais que dans un premier temps, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, qu'il se met à écrire, il veut plutôt prendre ses distances par rapport à la France. Hein? Et le débat dont j'ai parlé, là, La France et nous, en 1947, l'a beaucoup orienté vers ça. C'est-à-dire, et dans les années 50, Miron revendique notre américanité. Hein? Il dit, bon, nous avons une sensibilité américaine, notre sensibilité n'est pas celle de la France, et donc on va forcément faire une poésie qui, même si elle peut, bien sûr, elle s'inscrit dans la même langue et dans la même tradition poétique, en même temps, elle va marquer forcément une sensibilité différente, un registre différent. Lorsqu'il va en France en 1959-61, il va non pas du tout avec un complexe d'infériorité, il va plutôt pour apprendre quelque chose aux Français, leur apprendre un peu le Québec. Hein, bon. Et il côtoie les intellectuels de la revue Esprit, bon, Jean-Marie Domnac, il rencontre Édouard Glissant, qui est un grand intellectuel martiniquais, mais qui à ce moment-là est à Paris, et il se sent en général, de plein pied avec eux.
Hein? Est-ce que c'est lors de ce premier voyage, vous racontez une anecdote qui m'a fait beaucoup rire dans votre biographie, vous dites, il est sur la route avec un ami, et là, il dit, ah, c'est ici que demeure André Breton, hein, qui est le pape du surréalisme, et là, il décide d'aller le voir, comme ça, à brûle pour point, sans même prendre rendez-vous.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais effectivement, il dit à son ami Claude Effly, qui est un ami français qui, à ce moment-là, habitait dans la région de Bordeaux, écoute, il paraît que, oui, Breton prend ses vacances dans tel village pas très loin, on va aller le voir. Oui, mais Miron était comme ça. Quelqu'un m'avait raconté aussi que Miron allait à l'époque, donc en 1960-61, au cinéma à Paris. Et s'il reconnaissait dans la salle à la sortie un écrivain français ou un intellectuel, il allait se présenter. « Bonjour, je suis Gaston Miron, écrivain québécois. » Et on lit vos livres. Alors, il évidemment est un peu flatteur. « On lit vos livres au Québec. » Pas toujours. Pas toujours sûr.
Vous voulez dire, je lis vos livres au Québec, mais...
Mais...
Ça flattait l'orgueil.
Mais ce qui est frappant avec ça, c'est que d'abord, Miron s'est créé un carnet d'adresses incroyable à Paris. Ouais. il connaissait énormément de gens. Et moi, j'étais frappé parce que j'ai pu voir, quand j'ai fait la biographie, j'ai pu voir ses agendas, ses carnets et tout, et le nombre de personnes dont il avait les numéros de téléphone, les adresses qu'il pouvait rencontrer, c'était absolument fascinant. Je l'avais vu à Paris en 1900, je crois que c'était dans les années 80, là, 86 peut-être. Et il avait un emploi du temps absolument incroyable. Toute sa semaine, on était là durant la fin de semaine, le samedi ou le dimanche, mais il montrait là, les gens qu'il devait rencontrer durant la semaine. C'était incroyable. Mmh. Alors, donc, il y avait une espèce d'aisance. Et en retour, c'est sûr, les écrivains français étaient séduits par ce personnage, qui en même temps avait des idées, avait lu les écrivains. Et alors, Maspero, ça surgit là-dedans. C'est intéressant parce que Maspero, c'est surtout quelqu'un qui a publié des essais. Très connu, c'est un éditeur de gauche. Mm-hmm. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur la décolonisation, d'ouvrages de Jacques Berck notamment et plusieurs autres. Alors Miron va vers un éditeur qui est plus sociologique et anthropologique, je dirais. D'ailleurs Jacques Berck, qui était un de ses grands amis, est un anthropologue, et plutôt que vers un éditeur de poésie. Mais il se sent des affinités intellectuelles avec Maspero. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, là je me replace vers 1975-76, Miron, donc, a publié « L'homme rapaillé » en 70. Il fait un voyage à Paris et il a beaucoup d'offres de Gallimard, même, pour publier une version, peut-être nouvelle, de « L'homme rapaillé ». Et il hésite. Et là, parmi ces gens-là qui le contactent, il y en a plusieurs, il y a Maspero qui lui envoie un petit mot parce qu'ils se sont croisés quelques années plus tôt à la Foire du livre de Francfort, que Miron a beaucoup fréquenté comme membre de l'Association des éditeurs canadiens dans les années 60. Et donc, Maspero lui dit, on s'est rencontrés, c'était sympathique, si jamais un jour vous voulez m'envoyer quelque chose. Mais là, comme d'habitude, comme toutes les autres fois, Miron tarde, parce que ça se passe en 75. En 78, Maspero lui écrit et dit, j'ai toujours rien reçu de vous, est-ce que vous allez m'envoyer vos poèmes? 1979, finalement, Miron consent, et là, il signe un contrat et tout, mais tout ça est très, très laborieux avant que finalement, in extremis, en 1981, au moment où là, Maspero commence sérieusement à douter et à s'impatienter, en disant même, écoutez, j'ai annoncé votre recueil en 81, il faut que vous m'envoyiez les épreuves corrigées. Mais Miron est encore en train, en 81, de faire des corrections. Mmh. Et finalement, Il finit par envoyer le manuscrit.
Et c'est une très grande année pour lui.
Et là, alors là, il y a une conjoncture particulière aussi, peut-être qu'on va en reparler, mais le référendum au Québec a eu lieu l'année précédente, en 80. C'est évidemment une énorme déception pour Miron. 81, le recueil de l'homme rapaillé paraît à Paris, et c'est un grand succès. Bernard Pivot l'invite à son émission Apostrophe, et Miron connaît un succès extraordinaire à cette émission. Le lendemain, on le reconnaît dans la rue, il va dans un café, les gens le reconnaissent, se mettent à faire une fête autour de lui, lui demandent de chanter, etc. Et Miron ne se faisait jamais...
Et il se prêtait volontiers.
Se faisait jamais prier pour chanter, alors et tout. Ça va entraîner ensuite un très grand nombre d'invitations à Paris même, en province, où parfois il y a des journées de la poésie, des foires de la poésie, on invite Miron. Et peu à peu, ça va s'élargir, parce qu'en même temps aussi, il y a une traduction italienne, donc il va être invité en Italie. Et là, on entre dans une autre période complètement, qui est plus la période européenne de Miron.
Alors, terminons sur, justement, le volet politique. On n'a pas énormément de temps. Il a rendu des hommages aux militants. On pourrait dire que c'est un poète dans la cité. Il a un poème, d'ailleurs, où il développe cette idée.
Il a un poème même à Pierre Vallière, Charles Gagnon, dans L'amour et le militant, et même à Jean Corbeau aussi, le jeune qui a fait l'objet d'un film.
Alors donc, comment reçoit-il ces deux échecs, de celui de 1980 et celui de 1995? Comment reçoit-il ça? Comment interprète-t-il ce qui, pour lui, est un véritable échec?
Ce qui est assez frappant, c'est que Miron, bien sûr, s'est beaucoup engagé. En 1980, il a beaucoup milité. Il a fait d'innombrables interventions, soit dans des assemblées du comité du oui, mais aussi dans des cégeps, dans des résidences pour personnes âgées. Il a aussi aidé Gérald Godin. Il avait aidé Gérald Godin en 1976, mais il est revenu, il a continué à l'appuyer dans cette campagne. C'est à quel point Miron est laconique et silencieux sur la défaite. Hein? Moi, ce que j'ai trouvé de plus explicite, c'est dans une lettre qu'il envoie à une amie française peu après le référendum. Il lui dit « Nous sommes déçus, mais pas découragés. Je suis un vieux militant, alors je continue ma longue marche. » Et ça s'arrête là. Donc, Miron, de toute façon, n'est pas le genre... C'est sûr qu'il y a une profonde déception et sans doute le fait qu'il accepte tant d'invitations en France. Bien sûr, il l'accepte parce que ça permet à son recueil de circuler et tout. Mais je pense qu'il va séjourner pendant un an à Paris en 84-85. Il est bien à Paris à l'époque. Et il est bien aussi parce qu'il n'est pas au Québec où, quand même, c'est des années... Les années post-référendaires ont été très difficiles. Bon, ensuite, il y a le rapatriement de la Constitution. Bon, enfin, c'est des années où... Et il y a des propos de certains intellectuels québécois qui sont assez dépressifs à l'époque. Là. Bon, alors, avant qu'il y ait une sorte de relance plus tardive. Alors, mais Miron n'est pas le genre à se laisser abattre. Hein? Il est plutôt le genre à déplacer son action vers un autre pôle, mais... Quand il va, après son séjour à Paris en 84-85, bon, un peu après, il y a, vous savez, cette période d'un un retour du politique à travers la crise de l'affichage. Donc, celle-là, c'est plus la question linguistique qui se refait surface vers la fin des années 80 avec le jugement de la Cour suprême, bon, qui dit on ne peut pas interdire l'affichage en anglais, bon, etc. Et tout ce qui découle de ça avec des grandes manifestations. Là, Miron se réengage complètement et ensuite, il va se réengager aussi beaucoup pour le référendum de 1984. Alors, 95, on ne peut pas ne pas... Évidemment, je me suis toujours refusé à faire des extrapolations. Ça peut être un hasard et tout, mais il reste tout de même que Miron, quelques mois après le référendum de 95, éprouve de grandes fatigues, tombe malade et, bien sûr, un an après environ, en décembre 96, c'est la fin. Est-ce que... Bon, je ne veux pas surinterpréter, mais chose certaine, ça a été deux profondes déceptions. Et pour lui, hein, il faut voir que tout son projet poétique est aussi marqué par cette aspiration et cette idée d'une naissance. Quand il dit « Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance » dans le poème « Pour mon rapatriement », bien, ce « oui-là », évidemment, c'est aussi... c'est un « oui » collectif. Hein, et il ne peut pas ne pas lui avoir donné aussi ce sens-là. Alors donc, là, on arrive à le contraire. Les gens ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue à se battre, on se bat sur le plan. Et je pense que l'essentiel de l'engagement politique de Miron dans les dernières années, c'était surtout le français au Québec. Il a fait beaucoup d'interventions de ce côté-là.
Pierre Neveu, c'est déjà terminé. Bon. Merci beaucoup. Allez. Alors, si vous voulez...